CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Ce début d'édition et ce début de semaine, je le partage comme de coutume avec Karine Justeau. Bonjour Karine.
Bonjour David, bonjour à tous les auditeurs.
Karine Justeau, diététicienne nutritionniste à Villefranche-de-Rouergue, enseignante au lycée Raymond Savignac. De quoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui? C'est la question du lundi.
La question du lundi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des signes de qualité. Les signes de qualité, exactement. Parce qu'on s'y perd un petit peu, voire on ne les connaît pas du tout, et il me semble intéressant de faire un petit point sur ce qu'ils étaient, en fait.
C'est une manière de flécher les consommateurs sur ce qu'ils
ça
mangent, c'est
ça? Ça peut être tout à fait.
Signes de qualité, ouais.
Ouais, ce sont des signes, en tous les cas, qui ont été mis en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et par un institut qui s'appelle l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Peu importe, c'est juste pour la petite histoire. Sachant quand même qu'en France, ça représente un quart des exploitations. Donc, vous voyez, c'est pas rien, un quart des exploitations qui est engagé. Et ça représente plus de 1000 produits. Et donc, en achetant ces produits, on a surtout, nous, en tant que consommateurs, la garantie que la production a respecté un certain cahier des charges. Parce que ce sont des signes de qualité, des appellations qu'il est souvent très compliqué d'obtenir.
Ça peut mettre tout ce qui est label, en fait. Voilà. Label rouge, AOC,
voilà,
AOP,
un petit peu. Et en fait, ce sont des choses, de temps à autre, un produit met des mois, voire des années avant de pouvoir obtenir un label. Donc, il y a un vrai travail derrière. Hein. C'est pas les signes de qualité sont pas quelque chose qui se distribue comme des bons points comme ça. On a donc dans ces signes de qualité, on a quatre grands types. On a d'abord les qualités d'origine, hein, d'où vient le produit. Donc là, ils sont assez connus, c'est tout ce qui est appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégé, hein, ça veut dire que pendant toutes les étapes de fabrication, il y a un savoir-faire qui est reconnu et surtout qui vient d'une même zone géographique, hein, ce qui peut donner des caractéristiques au produit, hein, puisque la terre ne peut être d'une certaine manière. Ou alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? On va avoir le Roquefort, le poulet de Bresse, le vin de Bordeaux. Vous voyez, c'est vraiment, on raisonne territoire à ce moment-là. L'AOC, c'est une étape vers l'AOP, qui est l'appellation d'origine protégée. Donc l'AOP, je dirais, c'est encore au-dessus. D'accord. On a aussi l'IGP, l'indication de géographie protégée. Donc c'est lié au lieu géographique aussi, au moins pour la production ou la transformation.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Ah oui, le rendez-vous bien-être, mieux-être en CFM, deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et bon, début de semaine, une nouvelle fois, deuxième partie que je partage avec Delphine Henneke, naturopathe au magasin Au Bio. Coucou, salut Delphine.
Coucou.
On est tout voisins. La boutique est située avenue de Toulouse, entre les deux ronds-points, celui de la station Esso, celui du Carrefour. Un espace géré par Ingrid et Valérie. Aujourd'hui, tu vas nous parler. Après une semaine d'absence, parce que faute d'élection départementale, là on est entre les deux tours, tu vas nous parler de l'arrêt du tabac. C'est pile la période où il faut arrêter de fumer là.
Bah oui, là...
Ouais, c'est le printemps.
Voilà, ouais. Donc c'est bon, ceux qui sont décidés vont s'y mettre.
Est-ce qu'aujourd'hui dans cette chronique, tu vas nous donner des techniques redoutablement efficaces pour arrêter de fumer?
En tout cas, je peux citer deux plantes. Plantes redoutablement efficaces pour arrêter de fumer.
Ouais.
Oui, ça c'est vrai.
Restez.
Non, bon alors déjà, je voudrais faire un point un peu sur les mesures à adopter quand on va arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de miraculeux, on est bien d'accord. Donc je peux vous donner deux plantes redoutables.
Si on n'a pas la volonté.
Mais voilà, première chose, c'est être pleinement décidé, quoi. C'est pas juste, bon allez, j'arrête de fumer, alors là, vous aurez beau prendre tout ce qu'il faut, c'est pas la peine.
Moi je fume pas, hein, mais quand j'entends parler de cigarettes, j'ai envie de fumer.
Ensuite, il faut se trouver un peu une autre béquille, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un peu un nouveau plan de vie, quoi. C'est j'arrête de fumer, donc j'ai pris cette mesure importante, je sais que ça va générer chez moi un stress. Donc voilà, je me trouve des choses qui me font plaisir, qui vont m'apporter d'autres sensations de plaisir. Ça, c'est important.
Je sais. Tu vas nous parler de chocolat.
Non, je vais pas parler de chocolat.
Il y a toujours du chocolat dans les chroniques Adéphine, il faut le savoir.
Tiens, pourquoi pas? On peut prendre du chocolat, mais pas en excès. Mais pourquoi pas, oui, c'est vrai. Ah, j'aurais dû penser au chocolat. Ah, zut. Donc, il faut savoir aussi que le fait d'arrêter de fumer, pour les personnes qui fument beaucoup, c'est quand même un choc aussi pour l'organisme.
Ah bah oui.
Quand on a fumé pendant plusieurs décennies, finalement, le corps, il s'est habitué à ça, il a mis en place des mécanismes, et donc du coup, le fait d'arrêter brutalement, si c'est le cas, ça génère vraiment, outre le stress psychologique, voilà, le besoin d'endorphine, etc., il y a quand même aussi, voilà, ça génère un stress. Et ça, il va falloir l'accompagner de toute façon, même si on est décidé, même si, voilà, on se sent la force mentale, quand même. Il faudra quand même agir sur ce plan-là aussi.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs. ABT, vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, c'est le rendez-vous hebdo des HP. Nat, je te laisse la parole donc.
Oui, et bien voilà, moi je voulais parler des bénévoles, parce que c'est très important quand même, haut-parleurs. Et je crois que c'était au mois de décembre, j'ai vu une espèce de grand type là qui mangeait son gâteau. Alors je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois. Je dis, ah tiens, c'est un client régulier. Et pof, qu'est-ce que je vois pas à la fin du mois suivant? Enfin, le même mois donc, il était là déjà à la réunion bénévole et il s'est tout de suite engagé, voilà, pour être bénévole. Donc, j'avais envie qu'il nous explique un peu quelle a été sa démarche, qu'est-ce qu'il a à être bénévole aussi rapidement. En plus, j'ai appris ensuite que c'était un voisin des haut-parleurs, donc il y a aussi des voisins heureux autour des haut-parleurs, voilà, donc...
On veut tout savoir, voilà. En fait, là.
Non, pas tout.
Alors, c'est très simple, ça s'est imposé à moi, finalement, comme une évidence. Bon, je suis nouveau villefranchois, hein. J'ai emménagé, donc, effectivement, à 100 mètres des haut-parleurs, donc en plein cœur de la Bastide, fin octobre 2014... Et le lieu des haut-parleurs m'a interpellé immédiatement, quoi. Je l'ai d'abord fréquenté, comme dit Nat, comme client, quoi, très régulièrement. Et puis, ça sentait tellement bon, hein, et pas seulement les gâteaux, ni les bons petits plats qui étaient préparés, mais l'ambiance, l'atmosphère. Je le répète, ça m'a semblé être une évidence que de participer à cette expérience très, 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 très riche. Et alors moi qui suis un vieux rêveur, un vieil anarchiste, j'ai trouvé...
Un peu Pink Floyd, c'est ça?
Non, pas Pink Floyd, pas Pink Floyd, non, je ne suis pas un Pink Floyd.
Tu vois?
Ouais, ouais, je suis... un anarchiste concret, quoi. Et j'ai trouvé finalement que c'était une chance incroyable que de participer à cette expérience, quoi. Parce que pour moi, c'est l'incarnation d'une utopie concrète de l'anarchisme au sens noble du terme.
Transition énergétique et justice sociale, un nouveau défi pour les entreprises, une conférence animée par Frédéric Boll.
Alors je voudrais parler d'abord du parcours de Frédéric Boll. Il a, disons, été de la banque au négoce et à l'industrie. Il s'est intéressé au départ au marché pétrolier, au marché des matières premières. Donc, il a été directeur conseil en gestion des risques au sein de la branche marketing du groupe Total. Donc, vous voyez, au départ. Et puis, je crois que la crise depuis 2008 l'a fait énormément réfléchir. Et il s'est intéressé à l'entreprise. Il a créé une association, l'entreprise, une bonne nouvelle, en créant un cabinet de consultants Cédrac au carrefour de l'éthique et des pratiques économiques. Alors j'ai dit un parcours un peu atypique parce que finalement le système tel qu'il fonctionne nous mène droit dans le mur. Voilà ce qu'il dit.
Vous le dites souvent et vous le dites vous-même, Bernard,
absolument.
Également.
Absolument. Donc avec Gaël Giraud et Cécile Renoir, ils ont fait un livre qui a fait du bruit à l'époque, 20 propositions pour réformer le capitalisme. Donc, Gaël Giraud, c'est, il est membre de l'école économique de Paris, avec les Piketty, les Eli Cohen, les Daniel Cohen. C'est vraiment le haut du panier, les grands économistes. Et donc, il a remis en question, je pense, un petit peu, pas mal de choses.
Notamment le mode de gestion des ressources et leur redistribution.
Voilà. Alors, la transition énergétique, c'est quelque chose d'important, puisque à la fin d'année, il va y avoir cette conférence de Paris où on va justement remettre en question cette transition écologique, parce que sinon, on le voit d'ailleurs, les océans augmentent et vont modifier la ligne de nos côtes, les glaciers fondent. Mais au-delà de ces problèmes écologiques, il y a tout un socle éthique qui se fissure.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM. CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Ne jetons plus, réemployons et recyclons. Nom de nom.
Cette semaine à la recyclerie, donc un objet que nous avons en grand nombre à la recyclerie, c'est-à-dire un téléviseur. Alors les téléviseurs, bien évidemment, pas écran plat. Donc nous avons un certain nombre de téléviseurs, parce qu'avec le phénomène de TNT, de la TNT, etc., donc nous avons récupéré beaucoup de téléviseurs. Nous avons été obligés de limiter notre stock, on va dire, à une dizaine de postes téléviseurs sur la recyclerie. Mais beaucoup de personnes nous ont apporté des téléviseurs qui étaient en parfait état de fonctionnement, mais on a été obligés de les refuser, de les diriger vers la déchetterie, parce que nous ne pouvons pas, c'est le principe de l'offre et la demande, récupérer tous ces objets et avoir un stock démesuré. En revanche, nous avons accepté cette télé qui est donc une télé à forme ronde. Alors, j'en avais jamais vu, mais donc c'est Gilles qui a retenu cet objet pour vous cette semaine, parce que effectivement, elle est ronde, elle est blanche. Elle rappelle un petit peu les alvéoles des abeilles là. Elle est vraiment sympa. Elle a une bonne tête et elle est en état de fonctionnement. Voilà, on l'a branchée, elle fonctionne. Et là, sa mise à prix est de 20 euros. Donc là, voilà, c'est un objet mignon, original, qui est assez sympathique en soi. Je vous dis à la semaine prochaine à la recyclerie.
C'était le Recyclomètre, chronique hebdomadaire de la recyclerie du Rouergue, zone des Gravasses.
Guy Pezet, qui est l'invité de cette édition du magazine d'actualité, co-président de l'association Rencontre à la campagne, association qui nous propose des animations et puis les films à l'affiche à la salle de cinéma de Rieux-Pérou, à venir au-delà de l'écran. Un petit mot peut-être sur cette action.
Oui, c'est nouveau. Donc c'est un cycle de ce qu'on appelait des leçons cinéma, c'est-à-dire qu'autour d'un thème, en liaison avec un thème lié à l'histoire du cinéma, avec un auteur, avec un genre, enfin un thème de cinéma, il y a une intervention, personne, pas nécessairement un grand grand spécialiste, mais quelqu'un qui veut bien l'aborder, éclairer ce qu'on voit ensuite. Et on voit ensuite un film en rapport. Donc, il y aurait 5 leçons dans un premier temps, d'ici la fin de l'année, dont une durant le festival, en particulier sur Tarkovsky, qui est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, sur le miroir de Tarkovsky. Et ce serait donc un jeune réalisateur qui en parlerait, parce qu'il a souhaité, Nicolas Guéraud, en parler. On avait parlé, c'est documentaire. Il aime beaucoup Tarkovsky, donc lui trouvait intéressant d'en parler, mais après avoir vu le film. Parler librement, hein, c'est pas un spécialiste universitaire de Tarkovsky, c'est quelqu'un qui a fait le film sur les sœurs là de Bonneval, que j'aime beaucoup, Le temps de quelques jours, et donc il parlera de ça. Et il y aurait d'abord une première leçon, sans doute déjà en avril, sur le métalangage, le métafilm, donc le film dans le film un peu, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup dans le cinéma, que je appellerais postmoderne. Et avec le film après de Quentin Dupieux, Réalité, qu'on n'a pas pris mais qu'on a gardé pour ça et qui a l'air extrêmement intéressant. Alors voilà, il faut y venir, hein, ce sera intéressant. Donc c'est
un original, hein, Quentin Dupieux, ça, dans l'univers du cinéma. Un original, hein, Quentin Dupieux.
Un original, mais qu'on défend maintenant, hein, puisqu'on avait vu Von Kops, qu'on avait fait aussi Rubber.
Ah, puis il avait fait une histoire avec le pneu, là, oui, le pneu tueur.
Rubber. Rubber, il faut dire, hein, je crois. J'ai mal dit, peut-être, mais c'est The Rubber. Je suis vraiment pas spécialiste. Et c'était intéressant. Et donc voilà, la première est intéressante. Il y en a une autre sur le cinéma colombien au mois de mai, sur le film La Sirga. Bon, j'en parlerai à ce moment-là. Et on l'a d'ailleurs annoncé un peu ce week-end, où on avait une animation avec The Hongos, un des films les plus en vue au cinéma latino à Toulouse, dans le Festival Cinéma Latino, avec le réalisateur Oscar Ruiz Navia, qui était à Rio Pérou, qui a mangé avec nous, qui est un personnage extrêmement sympathique, comme souvent. Très simple, et lui aussi un amoureux, alors qu'il fait un film vraiment sur le graphe actuellement à Cali, sur l'effervescence un peu de la vie culturelle à Cali et politique. Il fait un film en même temps aussi en Suède, dans l'île où vivait Bergman, sur Tarkovsky. Un hommage à Tarkovsky et Epifania.
On ne finit pas les phrases, hein.
C'est le récapitulatif du MAG de la semaine et jeudi, on entendait ceci.
Salut Eric.
Bonjour David.
Eric Lachan, journaliste, chef d'édition au Villefranchois. C'est le tour d'horizon à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire. Et on commence avec l'info de la semaine qui concerne ces élections départementales. Deuxième tour sur le canton de Villefranche.
Tout à fait. Et puis bon, donc dans la perspective de ce second tour, nous présentons les résultats et les faits marquants qui se sont dégagés du premier tour qui avait lieu dimanche. Alors, premier fait, d'abord, la majorité départementale sortante a remporté un certain nombre de succès, puisqu'il y a 8 cantons qui sont d'ores et déjà tombés dans l'escarcelle de l'équipe de la liste présentée par Jean-Claude Luche, l'actuel président du Conseil Général de l'Aveyron. 8 cantons, dont celui d'Aveyron Vior, sur lequel André Hatt était en concurrence avec Patrice Couronne. Dès le premier tour, donc, André Hatt s'impose, et puis de manière tout à fait nette, puisque il totalise 57,54% donc dès le premier tour. Il
67% s'impose à Crespin, c'est dingue.
C'est un score de République bananière, carrément. Ouais. Il s'impose dans toutes les communes du canton, du nouveau canton, donc Aveyron-Tarn, y compris à Morion, où Patrice Couronne était maire jusqu'aux dernières élections, où il avait décidé de ne pas se représenter pour briguer justement d'autres mandats, celui qui dans lequel il était en course cette fois-ci. Ça sera pas pour donc ce coup-ci de toute évidence.
Loin d'être ridicule, la liste majorité citoyenne.
Oui tout à fait, il réalise 14,40%, ce qui est un joli score, ce qui explique aussi la faiblesse du score de Patrice Couronne, hein. La gauche était divisée. Enfin bon, toujours est-il que avec 57,54% pour André Hatt, de toute façon, uni ou pas, ça n'aurait rien changé à la chose. Autre fait marquant de ce premier tour, c'est que à Villefranche, c'est Laurent Tranier qui arrive en tête. Ce n'est guère une surprise, puisque bon, la droite, on va dire, est la droite classique est unie au cours de ces élections, contrairement à la gauche qui était divisée entre plusieurs candidats, évidemment Éric Cantournet, Jean-Michel Bouissier, Boris Cortijos, enfin bref.
Sylvie Bouchaud. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie Bouchaud, alors présidente de la Fédération départementale des sociétés musicales de l'Aveyron. La dernière fois qu'on s'est croisés dans ces studios, c'était pour une création musicale autour Around Herbie Hancock, avec le partenariat de l'association Jazz Animation Wari. Alors Sylvie Bouchaud, multicasquette, hein, chef d'orchestre, voilà. Professeur de musique, de piano, de clarinette, à l'Union Musicale, notamment, à Villefranche-de-Rouergue, la plus ancienne association du Villefranchois, qui va célébrer d'ailleurs le 6 juin prochain, c'est 140 ans, il me semble. Ouais, une grosse fête nous est proposée. Sylvie Bouchaud, également fan des Michel, hein, Michel Drucker, Michel Sardou, tous
Michel
les Michel.
Delpech aussi.
Michel Delpech. Également invité aujourd'hui pour nous parler de la Fédération départementale des sociétés musicales de l'Aveyron, et puis notamment d'un concert qui aura lieu ce samedi à 21h à la salle des fêtes de Monteil. C'est un concert gratuit, 50 musiciens dans la salle des fêtes de Monteil. Là, c'est à côté.
Voilà.
Là, c'est...
On voulait pas trop aller trop loin de Villefranche. Villefranche, c'était difficile parce que avec 50 musiciens, avoir un lieu qui nous accueille, il n'y avait pas forcément. Le théâtre, c'est était un peu à l'étroit. Bon, on le sollicite aussi beaucoup. Donc, et on a choisi Monteil parce que la salle a une très belle acoustique.
Hein. Voilà. Entrée gratuite, c'est important de le dire.
Entrée gratuite, ouais.
50 musiciens
50
qui débarroulent
musiciens, voilà.
dans cette salle. Ouais, donc, gros concert, gros répertoire concert, aussi.
Ouais. En première partie, donc, c'est Union Musicale. Alors, nous, on est une petite vingtaine. Mais on fait les choses. Donc, moi, j'ai fait travailler avec l'orchestre qui est le programme cette année, parce que chaque année, l'orchestre change de programme. Donc, on est parti sur du John Williams, parce que John Williams, c'est très beau. Enfin, bon, c'est le Star Wars, mais il a écrit plein de choses fantastiques. Musique de film. Après, je suis partie sur une pièce de. Je fais deux hommages. Je fais un hommage à donc Edith Piaf avec Sous le ciel de Paris. Je fais aussi un hommage à Pavarotti. Bon, ça c'est un peu. Bon, c'est quelqu'un qui nous a quitté il y a quelques années avec une pièce de Puccini. Je fais aussi une pièce. Alors, une pièce un peu kitsch, comme disaient les musiciens, parce qu'ils n'étaient pas très contents de la jouer. C'est pas du Frank Sinatra, mais c'est un peu dans le même esprit.
Oh,
c'est quelque chose d'un peu rétro. Mais,
ouais.
Et alors, après, l'orchestre départemental qui, lui, va donc prendre la scène, enfin jouer. Là, on est sur. Alors, il y a du Berlan, c'est un morceau de jazz, un standard qui est extraordinaire. Il y a une musique cubaine. Et un gros pavé de musique, on va dire une musique moderne, qui n'est pas très connue, mais qui est très rythmée. Et à la fin, donc, on va clôturer le concert avec les deux formations réunies. Et on va jouer, donc je vais diriger, puisque comme c'est Villefranche qui reçoit l'orchestre départemental, je leur propose une pièce de Brahms, les danses hongroises, pour clôturer le concert.
Christophe Autain, bonjour Christophe.
Bonjour.
C'est notre rendez-vous traditionnel, hein, fin mars, début avril, pour parler de cet événement proposé dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, autour de l'action du collectif Entrée en matière, qui nous propose deux jours de démonstration de savoir-faire. Ça se passe à Figeac, là, ce week-end, rue Baduel et place du Consulat à Figeac. Je te le disais en aparté, j'ai la sensation que cette édition 2015 monte une nouvelle fois en puissance avec... Juste le nombre de participants, hein, par exemple, j'ai l'impression que ça s'est étoffé, en tout cas, pour nous parler du geste, de l'outil, de la matière, artisan passionné que vous êtes.
Cette année, on a monté une association de tous les artisans qu'on était, qu'on œuvre depuis 19 ans maintenant. Donc, on a un peu concrétisé toutes ces actions qu'on a faites pendant des années pour monter une association d'artisans d'art. Là, cette année, c'est toujours dans les cadres d'un GMA. Figeac est investi, la ville est investie par le salon régional des métiers d'art aussi, dans le cadre toujours des GEMA qui investit la ville. Et donc il y a 80 artisans d'art sur toute la ville. Et nous, parallèlement à tout ça, nous investissons la rue et la place qui est juste en dessous l'atelier pour travailler dans la rue, devant les gens. Et tous, on va montrer nos différentes façons de travailler et faire découvrir au plus grand nombre nos différents métiers.
Alors, ciseleur, coutelier d'art, deux ferronniers interviendront, luthier du quatuor, ça c'est Pauline Achard que l'on retrouve tous les ans, une fidèle, détailleur de pierre, tapissier garnisseur, tapissier traditionnel, vous-même, hein, Christophe Autain, vous avez votre atelier qui s'appelle l'atelier à Figeac, très précisément. C'est quoi votre point commun à vous tous?
Ben, disons, on est tous un peu dans le même... Déjà, on travaille tous des matières différentes, on est tous dans la même optique... par rapport à la façon dont on pratique notre profession. Disons qu'on a un certain respect du métier que l'on pratique, parce que bon, il y a différentes façons de pratiquer un métier. nous, on a quand même une éthique qui est bien précise par rapport à la façon dont on le pratique. Les gens ont fait des démonstrations. Alors, c'est impératif dans l'association qu'on a mis en place, c'est de travailler devant les gens pour montrer en profondeur le métier que l'on pratique. Donc, nous, on exprime la qualité, la proximité, la durabilité de ce qu'on fait.
Et de prendre son temps, de respecter la matière, c'est essentiel.
Voilà, parce qu'il y a le slow-made, on travaille dans le mouvement du slow-made qui a été annoncé par l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, et qui nous correspond très bien. Ça veut dire faire les choses en prenant le temps nécessaire de les faire, et de bien les faire, quoi.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement, ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30,
la vie du Villefranchois.